Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h23 ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse à la situation aux États-Unis. Donald Trump en perte de vitesse dans les sondages, peut-il encore gagner face à Joe Biden? Joe l'endormi, Sleepy Joe comme il le surnomme. Ce soir, c'est l'heure du face-à-face qui a sonné, avec un premier duel télévisé très attendu à 35 jours du scrutin. Des dizaines de millions d'Américains, 120 millions peut-être, seront devant leurs écrans. Et c'est un journaliste de Fox News qui sera le monsieur loyal, Chris Wallace, réputé pour ses questions sans concession. Alors ce duel peut-il inverser la tendance des sondages? Que peut-on en attendre? Donald Trump va-t-il faire le show? On en parle ce soir avec Nicole Bacharan. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, auteur du livre « Le monde selon Trump » aux éditions Talendier. On en parle également avec Yannick Mireur, politologue et spécialiste des États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parle avec Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste évidemment des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Marie-Cécile.
Bonsoir.
D'abord, à quoi vous vous attendez les uns et les autres avec cette grande confrontation, Nicole Bacharan?
Je m'attends à ce que chacun soit dans son rôle, les trois d'ailleurs, parce que Chris Wallace, le journaliste que vous avez cité, c'est vraiment un homme de poids. Donc je m'attends à ce que Donald Trump soit très agressif, qu'il ait trouvé avec son équipe une formule pour essayer de mettre au tapis cette affaire d'impôts qui vient d'éclater et qui va évidemment jouer un rôle. Et qu'il essaye de démontrer que lui est plein d'énergie, compétent sur l'économie, et que Joe Biden, lui, serait fatigué et au bout du rouleau. Lui, Joe Biden, je pense qu'il va faire l'homme raisonnable.
Oui.
Celui qui pourrait ramener l'Amérique à la normale ou quelque chose qui ressemble.
Alors, c'est un moment fort de la campagne américaine, ces duels. Hein. Il y en aura plusieurs, trois, je crois, jusqu'à l'élection, le 3 novembre. Depuis le premier débat organisé il y a 60 ans à Chicago, c'était entre Kennedy et Richard Nixon. C'est une vraie confrontation d'idées à laquelle on va avoir lieu ce soir, ou un show télévisé comme Donald Trump en a le secret? Marie-Cécile Nave.
Alors il y en a un qui va vouloir, je pense, qu'on aille vraiment sur le terrain des idées et sur l'agenda, c'est Joe Biden. Trump va sans doute éviter de le faire et d'aller dans des attaques personnelles, dans des contre-vérités, faire le show comme le disait Nicole Bacharan à l'instant. Et tout le défi de Joe Biden qu'on attend un peu de voir dans ce débat.
Oui.
Parce qu'on sait comment Trump se comporte. On a le précédent de 2016 face à Hillary Clinton. Biden, la dernière fois qu'on l'a vu dans ce type d'exercice, c'était face à Sarah Palin en 2008, qui était déjà pas facile. Mais on attend de voir comment il va se comporter. Et sans doute qu'il va essayer de revenir sur son programme, sur l'agenda, sur le fond en fait. Quitte à dire aussi que Trump a fait une très mauvaise gestion, notamment de la pandémie, alors que Trump va l'emmener sur ce qu'il fait d'habitude, donc les petites phrases, les attaques personnelles.
Et peut-être sur sa capacité à finir son mandat, parce qu'il y a une interrogation autour de l'état de santé de Joe Biden, qui a déjà dit que s'il n'était pas en capacité de finir son mandat, ce serait sa colistière qui terminerait le mandat. Donc il y a une interrogation quand même sur la capacité de Joe Biden à pouvoir être à la tête de l'Amérique pendant les 5 ans qui viennent.
À ne pas répondre aux provocations de Trump, et Trump, il a rien à perdre dans ce débat. Il est à la traîne dans les sondages, ça ne veut pas dire qu'il a perdu encore, hein, loin de là. Il est à la traîne dans les sondages, il faut qu'il remonte un petit peu dans ses sondages nationaux et dans certains swing states où c'est dangereux pour lui. Et donc, tous les coups vont être permis pour lui ce soir, c'est clair.
Ouais. D'ailleurs, c'est un duel télévisé qui se déroule à Cleveland, dans l'Ohio, qui est un état clé, car indécis entre républicains et démocrates. Qui a le plus à perdre dans ce débat ce soir, Yannick Mireur? Vous êtes donc politologue et spécialiste des États-Unis.
Oui, l'Ohio qui avait basculé, je me souviens, pour la réélection de George W. Bush, et qui avait fait l'élection ou la réélection de George W. Bush en 2004. Donc c'est un État qui est très important. Celui qui a le plus à perdre, évidemment, c'est Joe Biden, parce que c'est celui qui doit convaincre qu'il s'installe comme un adversaire à la hauteur de deux choses, à la hauteur du moment historique que vivent les États-Unis, d'une part, puisque ce n'est pas quand même le candidat le plus jeune, on l'a dit.
77, c'est ça?
Oui.
Il a 77 ans, oui.
Oui, nécessairement le plus dynamique.
Oui.
Ce n'est pas non plus le plus cérébral, le plus structuré, par rapport à Clinton ou Obama, mais c'est peut-être un avantage. À la hauteur aussi, deuxième point, de son adversaire.
Je fais une parenthèse, mais c'est un personnage qui est intéressant, car c'est un personnage qui a vécu des drames dans sa vie, qui est, paraît-il, authentique. Il a perdu sa femme, Et sa fille dans un accident de voiture quand il était jeune sénateur. Il avait, je crois, à peine 30 ans. Il a perdu son fils il y a peu de temps, oui, d'un cancer absolument foudroyant. Et on dit souvent que Joe Biden est un gaffeur, mais on dit aussi qu'il a une grande empathie et que c'est l'une de ses forces. Et qu'en cela, l'Amérique reconnaît un politique sincère, d'une certaine manière.
C'est ce que je disais. C'est peut-être pas le plus cérébral de tous, mais au fond, c'est pas ce qui est peut-être le plus important dans les circonstances. Et précisément, sa capacité aussi à faire valoir cette empathie. Les Américains connaissent son parcours, il aura l'occasion de les rappeler. Il y a toujours ce moment un peu sensible et personnel. Et lui, pour le coup, malheureusement, c'est tragique, mais il a un sac plein d'anecdotes, si je puis dire, sur ces sujets. Donc, pour amener à lui la sympathie de l'auditoire. Mais il a aussi cette capacité. Alors, c'est un peu l'incertitude, il manque de constance. Mais oui, c'est sa capacité aussi, et je pense que la meilleure arme contre Trump, à faire preuve d'humour et de formules tranchantes. Et ça, il sait mieux le faire, certainement, par exemple, qu'une Hillary Clinton.
On se retrouve dans une poignée de secondes, 19h28, dans le débat du Club des idées. On continue de parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et on parlera notamment de la campagne qu'a menée Donald Trump et qu'a menée Joe Biden. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours ensemble dans Europe Soir, dans le studio, évidemment avec le grand débat du Club des idées. Et on parle des États-Unis avec ce duel tant attendu ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. Premier des trois duels que se livreront les deux adversaires d'ici à l'élection présidentielle début novembre. Et avant de poursuivre la conversation avec nos invités en studio, je voudrais qu'on retrouve Xavier Yvon, qui est notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir Xavier, vous suivez évidemment les événements pour nous, sur place, on vous entend régulièrement dans les journaux, à Europe 1. Comment se prépare ce débat ce soir au sein de l'Amérique ? On annonce plus de 120 millions de téléspectateurs, peut-être même plus. Est-ce que cette élection, avec ce premier débat, est-ce que ce débat peut, d'une certaine manière, faire basculer l'élection ?
Bon, alors c'est vrai que ce sera un peu le Super Bowl de la politique, hein, avec donc des dizaines de millions d'Américains, peut-être vous l'avez dit, 120 millions devant leur télé, chacun chez soi, hein, pour cause de pandémie. Il n'y aura pas beaucoup de watch party pour regarder le débat. Et est-ce que ça peut faire tout basculer? Il y en a un qui l'espère vraiment, c'est Donald Trump. On l'a dit, vous l'avez expliqué, il est en retard dans les sondages, donc il doit changer la dynamique de l'élection. Ça ne va pas être évident. Est-ce qu'un moment dans un débat, ça peut le faire, sachant que ça fait des mois que les sondages sont constants, les écarts sont constants avec Joe Biden, et on a eu énormément d'événements très importants, hein, la pandémie, l'économie qui s'effondre, la mort de la juge Ginsburg, tout ça, ça n'a pas vraiment changé les écarts. Donc est-ce qu'un débat gagné par Trump peut changer tout ça? C'est difficile à dire, d'autant que historiquement, les débats n'ont pas souvent changé grand-chose. Regardez Hillary Clinton en 2016. On a dit qu'elle avait gagné les trois débats et ça l'a pas empêché de perdre l'élection. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui explique qu'il y a seulement 3% des électeurs américains qui disent qu'ils vont se décider après ce débat, en regardant le débat. Donc c'est quand même pas beaucoup. Vous, oui, avez déjà 1 million d'Américains qui ont voté par anticipation. Donc il y a un débat alors que les Américains sont déjà en train de voter. Et depuis 2 jours que je suis dans l'Ohio, j'ai parlé avec pas mal d'électeurs américains et ils sont tous assez décidés. Hein, tout le monde est dans sa tranchée, les pro-Trump, les pro-Biden, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont entre les deux. Les pro-Trump, ils avalent tout ce qu'on leur dit leur candidat. Donc par exemple, ils sont persuadés qu'ils vont voir un Joe Biden grabataire, sénile, incapable d'aligner deux phrases. Donc pour lui, ce sera assez facile de prouver qu'en fait, il a quand même à peu près toute sa tête. Oui. Et les pro-Biden, eux, ils ont un peu peur pour leur candidat parce qu'ils savent qu'il est sujet aux gaffes, qu'il peut s'énerver vite s'il est attaqué notamment sur sa famille. Et donc, ils vont surtout surveiller les réactions de Joe Biden. Ils préféraient qu'il soit ennuyeux, qu'il ne fasse pas de vagues, pas d'erreurs et que donc, il n'y ait pas un moment que Donald Trump crée et qu'il puisse en plus ensuite exploiter.
Bien, merci Xavier Yvon. On imagine que la tension est en train de monter dans l'Ohio. Vous êtes sur place évidemment car le premier duel, le premier débat est organisé dans l'Ohio, dans la ville de Cleveland. Merci Xavier. On vous retrouve évidemment toute la soirée demain matin à partir de 5h dans la matinale pour un compte-rendu de ce premier duel américain. Alors il y a un événement qui est venu un peu perturber cette préparation du duel, c'est la publication de la feuille d'impôt de Donald Trump, dont on découvre qu'il n'a payé que $750 d'impôt en 2016 et en 2017. On a un peu du mal à y croire. Et pendant une dizaine d'années avant cela, sur les 15 dernières écoulées, il aurait payé 0 euro d'impôt, 0 dollar d'ailleurs d'impôt, c'est plus juste. Est-ce que ça peut pénaliser le président Trump, une telle révélation ? Marie-Cécile Nave.
En tout cas, Joe Biden essaie déjà de l'exploiter avec des tweets sous forme de vidéos en comparant ce que Trump a payé comme impôt et ce que paie en moyenne un enseignant, un infirmier, un pompier. Et donc effectivement, ça fait des gros écarts. Ça va sans doute être exploité ce soir, justement avec ce storytelling de l'Amérique des classes moyennes, des oubliés de l'Amérique auxquels Trump s'était adressé en 2016 et qui finalement n'ont pas été la priorité de ses politiques. Peut-être que Joe Biden va revenir là-dessus. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette information sur la situation fiscale de Trump, mais ce n'est pas forcément abordé ce soir, mais on verra, c'est les très très forts soupçons qui se renforcent de conflits d'intérêts avec des puissances étrangères et le fait que c'est aussi finalement quelqu'un qui est à la limite ruiné, parce qu'il est extrêmement endetté.
Oui, oui.
Et donc l'image du super businessman qui réussit tout, qui est un winner, elle en prend quand même un
mais
coup.
Mais ce qui est fort chez Donald Trump, c'est sa capacité à retourner les situations et faire d'un scandale presque un
une
objet
force,
d'érision.
Ouais.
Nicole Bacharan, par exemple, il avait été interrogé lors du précédent débat avec Hillary Clinton il y a 5 ans sur cette histoire d'impôts. Il avait dit « je ne paie pas d'impôts parce que je suis malin ».
Voilà, exactement.
Et tout le monde avait rigolé.
Enfin, tous ceux qui, en tout cas, l'ont approuvé avaient rigolé, comme si, effectivement, c'était une chose assez chouette à faire, de ne pas payer d'impôts venant du patron de la Maison-Blanche et du président des États-Unis. Cette absence totale d'esprit civique, on peut quand même considérer que c'est assez gênant. Mais vous avez raison, ce qui ressort de ces documents publiés dans le New York Times, c'est que vraiment les entreprises Trump, c'est un château de cartes. Il est archi endetté. Une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il veut rester à la Maison Blanche, outre qu'il ne veut pas perdre, mais c'est aussi qu'il doit des centaines de millions à des créanciers et également certainement au fisc, que les conflits d'intérêts que citait Marie-Cécile, ils vont à un moment, quand on regarde de très près, on est franchement dans la corruption. Je voudrais vous donner un exemple de cette situation. Donald Trump dit « je suis un homme d'affaires formidable, or je ne paye pas d'impôts », alors que franchement, les Américains payent pas mal d'impôts. Je pense à Mitt Romney, qui de temps en temps revient sur le devant de la scène.
Républicain de son État.
Voilà, et qui était le candidat face à Obama, le candidat républicain en 2012, qui n'est pas un politique extraordinaire, mais qui est un homme d'affaires redoutable et richissime. À l'époque, il a publié, comme tout le monde, sauf Donald Trump, sa feuille d'impôt, il payait 12% d'impôts, ce qui était ridiculement bas, mais il avait des armées d'avocats fiscalistes qui négociaient directement avec le fisc, et tout ça était au cordeau, et disons, en utilisant au mieux les lois fiscales, il arrivait à 12%.
Oui.
Donald Trump ne paye pas d'impôts pendant 10 ans, je veux dire, le moins 10 ou même 15 ans, il y a quelque chose qui n'est pas honnête.
Alors,
là-dedans.
Sur le vrai bilan de Donald Trump, avant la crise du Covid, force est de constater qu'il était plutôt bon. Taux de chômage historiquement bas, 3,5% en février dernier, une croissance solide, 2,3% en 2019, même si cette Amérique du plein emploi présente deux visages, hein, 5% par exemple des salariés américains dissimulés plusieurs jobs pour finir le mois. Alors après, il y a la crise du Covid, évidemment, qui est passée par là, patatras, le chômage est monté à plus de 10%, les déficits se sont creusés, mais quand même, Yannick Mireur, vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis, a-t-il, sur le plan économique, un bon bilan à son crédit ?
C'est un peu piégeux, en réalité, parce que sur le premier point, on peut dire que les baisses massives d'impôts qu'il a accordées au début ont relancé, ont donné un coup de jus à l'économie américaine, mais au prix d'un endettement colossal. Alors, ce qui ne se voit pas, on est toujours entre la perception et les réalités. Mmh. En fait, le match va se jouer un peu là-dessus, et lui, il est assez bon pour faire passer les perceptions avant les réalités et à son avantage. Donc, la question est aussi de se rappeler que les États-Unis sortaient de la crise de 2007-2008 et que ce sont les politiques menées par l'administration précédente qui ont porté leurs fruits au bout de quelques temps. Et donc, la bonne santé économique des États-Unis, elle existait déjà. C'est la loi du genre. Mais du coup, il n'est pour rien dans la pandémie, quoique pour sa gestion mauvaise, un petit peu, bien sûr, mais sur l'avènement de la pandémie, il n'est pour rien. Et on peut mettre sur son dos, et si j'étais son candidat, je ne me priverais pas de le faire, le désastre du chômage américain, qui ne s'est jamais vu depuis des dizaines d'années, est tapé là-dessus.
Oui.
Puisqu'il faut asséner et encore asséner. Et c'est d'ailleurs un des points de l'attitude, au fond, qui sera celle de Joe Biden, de bien faire la part entre les choses, c'est-à-dire de ruiner sa réputation d'homme d'affaires avec grand succès, et en même temps de le mettre dans un corner. Comme
dans quelques secondes, on parlera du programme de Joe Biden.
Oui.
C'est intéressant parce qu'il y a l'outrance, il y a les attaques, mais il y a quand même des programmes. On en parle dans quelques secondes dans le débat du Club des Idées. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la situation aux États-Unis avec ce duel, ce soir entre Donald Trump et Joe Biden. Le premier duel à 35 jours du scrutin. Quels enjeux peut-il faire basculer l'élection américaine ? On s'intéresse aussi au bilan et au programme de Joe Biden notamment. Alors, Quel enjeu pour Joe Biden? Il n'a pas énormément fait campagne jusqu'à présent. C'est vrai que sa campagne avec le Covid a été plutôt soporifique, on peut le dire comme ça. Il s'est lancé depuis quelques jours dans la reconquête de l'électorat ouvrier blanc. Il a entamé une grande tournée des États industriels qui ont d'ailleurs donné leur voix au candidat républicain en 2016. Et pour cela, il la joue un peu social-démocrate. Il veut doubler la taxation des profits réalisés à l'étranger par les multinationales, pénaliser les délocalisations, favoriser les relocalisations, renforcer l'Obamacare et augmenter le salaire minimum à 12,90 €. Ça rappelle ceci.
Objectivement, Make America Great Again était le meilleur slogan de tous les temps. Comment abandonner le meilleur slogan de tous les temps? Parce que vous savez ce qui va se passer? Si je choisis un nouveau slogan, j'abandonne le meilleur slogan de tous les temps. Et si je perds, les gens diront « Mais quelle erreur !» Mais on ne perdra pas de toute façon. Donc peu importe, on ne perdra pas.
Parfois, il se perd un peu. On dirait qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête. Mais pour revenir... Non, pardon, c'est une mauvaise blague. Pour revenir sur Joe Biden, on a un peu le sentiment quand même qu'il reprend cette idée de « America first ». L'Amérique d'abord, Marie-Cécile Nave.
Oui, avec notamment la mesure que vous avez citée, qui est de taxer très lourdement les profits réalisés à l'étranger par les multinationales, parce que dans le cœur de l'électorat démocrate, il y a quand même les classes populaires. Les classes populaires, quand même en 2016, bon, massivement, elles s'abstiennent, mais en 2016, elles ont quand même plus voté Clinton que Trump, mais Trump a fait une percée chez, grosso modo, les gens qui avaient moins de 30 000 dollars par an de revenus. Oui. Donc, il a besoin quand même... Biden d'aller les rechercher avec des politiques économiques social-démocrates, effectivement, qui ressemblent plutôt à des mesures qu'on retrouve en Europe, l'augmentation du salaire minimum fédéral, vous l'avez dit, et puis la confortation aussi d'une certaine protection sociale. Et là, il a un peu gauchisé son discours à l'occasion de la Covid. Il n'est plus seulement dans la réaffirmation de l'Obamacare qui va être menacée avec la nouvelle Cour suprême, hein. Ça, oui. c'est probable.
On a un peu l'impression d'entendre le programme de Bernie Sanders, qui était le plus à gauche des candidats
démocrates. Sans aller jusque-là, mais il est contraint quand même de le faire, notamment pour l'électorat dont vous avez parlé, mais aussi pour la jeunesse. La jeunesse progressiste qui, elle, a soutenu Bernie Sanders, qui est très, très anti-Trump, mais qu'il doit aller séduire parce qu'elle ne va pas aller forcément voter pour Biden.
Est-ce que le programme, ça a vraiment un impact sur l'électorat? On est tellement dans une politique spectacle, dans une outrance, dans des scandales. Nicole Bacharan, est-ce que ça peut avoir un impact, ces propositions tout à fait concrètes, hein, et défendables de Joe Biden?
Oui, ça compte.
Ça compte.
Ça compte. Tout ce qui concerne la santé, la protection médicale, les emplois, particulièrement dans ces régions industrielles que vous citiez, oui, ça compte. Et c'est vrai que ce programme de Joe Biden, qui, comme le disait Marie-Cécile, est plus à gauche qu'il n'était lui-même, Biden, il y a, disons, un an, si l'on regarde historiquement, eh bien, ça ressemble fortement au New Deal de Franklin Roosevelt, en 1932, qui avait pris les rênes du pays au moment de la pire crise, jusqu'à aujourd'hui, que les États-Unis aient connu, crise économique et financière, avec des investissements massifs de l'État dans les infrastructures et des règlements considérables pour essayer justement de trouver une forme de soutien aux plus modestes, de sécurité à peu près pour tout le monde et de justice plus ou moins dans les efforts à faire.
Et ce qui est intéressant, donc ce soir, il a aussi intérêt, Joe Biden, à dérouler ce programme-là.
Évidemment. Mais oui. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que toute élection américaine, cette année, c'est un référendum pour ou contre Trump, c'est aussi simple que ça. Mais en général, toute élection américaine, c'est la question centrale, c'est faut-il un rôle plus fort ou moins fort de l'État? Est-ce qu'il faut que l'État intervienne moins, que les énergies se libèrent, ou au contraire, est-ce que l'État a quand même des responsabilités fortes en matière d'emploi, de santé, de sécurité sociale dans le sens le plus vaste? Il y a quand même beaucoup d'Américains qui ont des raisons d'être très inquiets. Et donc là, évidemment, Joe Biden, il a fortement intérêt à souligner toutes ces questions-là.
Alors, une dernière minute qui nous parvient à l'instant via une dépêche AFP. Joe Biden publie à l'instant ses dernières feuilles d'impôts avant, évidemment, le débat contre
c'est
Trump.
Bonne guerre,
c'est
franchement.
Une sorte de pied de nez à Donald Trump. Yannick Mirreur, vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis.
Bien entendu, avec ce qui vient de sortir dans le New York Times, ça tombe à pic, si on peut dire. Et puis, ils ont en plus le débat. Ceci étant dit, bon, c'est de bonne loi. Hein. C'est quelque chose qui se fait. Pour le reste, je dirais qu'il n'a pas besoin d'être ostensiblement à gauche, même s'il doit sécuriser, affermir sa base sur l'aile gauche du Parti démocrate, car au fond, là, comme toujours, l'élection se gagne un au centre et deux sur les questions socio-économiques. Oui. C'est la raison pour laquelle il a un avantage intrinsèque, je pense, c'est qu'il est lui-même, il faut qu'il intériorise au fond les problématiques des cols bleus américains, c'est-à-dire de ces classes moyennes et populaires qui ont beaucoup perdu depuis 40 ans et dont le salaire n'a pas évolué. Exactement, il faut utiliser ce type de vocabulaire parce que c'est là d'où il vient, c'est lui en fait, ces Américains-là, c'est pas du tout Trump. Ça pouvait être Clinton dans une certaine mesure, mais encore beaucoup moins parce qu'elle a rejoint l'élite par son parcours universitaire par exemple. Lui, c'est cette Amérique-là, c'est ce qu'il est. Et donc je pense que s'il l'intériorise, il n'a pas besoin tellement de parler d'idéologie, de parler, vous avez raison, de plus d'État, puisqu'il y a quand même aux États-Unis une culture politique qui fait qu'on craint le socialisme et l'intrusion de l'État dans les choix personnels. Donc, mieux d'État, c'était déjà le slogan de Clinton, hein. Moins d'interventionnisme. Oui,
mais ce qui est paradoxal, c'est quand même qu'il y a un interventionnisme économique qui fait penser à Colbert.
Ah, bien sûr, mais ça c'est autre chose, ça c'est le pragmatisme.
Très
ça,
interventionniste bien, sur les questions économiques.
Bigrement, et c'est. Ça, c'est une autre chose. C'est que l'État intervient.
Et sur les questions commerciales.
Pour sauver, sur les questions commerciales, bien sûr, sur l'innovation, qui est souvent issue du secteur militaire, etc. Et donc, il n'a pas besoin d'être spécialement idéologue, mais plutôt de faire en sorte que son discours résonne. Il fera deux choses. Il résonne dans l'électorat qu'il doit gagner parce qu'il décidera d'élection et dont il est encore une fois lui-même issu. C'est pour ça que c'est un peu le nice guy, le type sympa, l'Amérique qu'on aime bien. Et deux, parce qu'il tirera le tapis sous les pieds de son adversaire.
Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS.
Oui, je crois que Joe Biden, il va continuer à dérouler son storytelling du candidat protecteur, du président protecteur, bienveillant, qui apporte un leadership de solidarité et qui s'oppose complètement au leadership très prédateur de Trump, à la fois en termes d'agenda, à la fois en termes de style, à la fois en termes de prospective. Et là-dessus, son histoire personnelle rejoint son récit et rejoint son programme. Et ça, c'est sa force. Et on va voir s'il peut le dérouler ce soir.
Bon, ce soir, à 3h du matin, tout le monde est devant sa télé
Oui, on tâchera.
Bon, bah, bonne nuit blanche alors à tous les trois. Merci infiniment de nous avoir accompagnés pour ce débat du Club des Idées. Et justement, restez avec nous à 19h49, car dans un instant, on va, avec nos archives, vous raconter le jour où Nixon a affronté Kennedy, c'était en 1960, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.